VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Et 11h à Bamako, midi à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Le président nigérien Muhammadu Buhari en visite aujourd'hui au Tchad, deuxième étape de son premier déplacement à l'étranger depuis son accession au pouvoir, après le Niger. Une tournée placée sous le signe de la lutte contre Boko Haram. Le général Buhari doit avoir des consultations à ce sujet avec le président tchadien Idriss Déby Itno. Les pays de la coalition anti-Boko Haram ont finalement trouvé un homme à poigne pour diriger la force d'intervention militaire régionale qui doit combattre le groupe islamiste nigérian. Il s'agit de haut gradé de l'armée nigériane, Bagassi Koura.
L'armée nigériane a annoncé que le major général Tukur Yusufu Buratai a pris hier ses fonctions de chef de la force d'intervention conjointe multinationale à N'Djamena au Tchad. Forte de 8 700 militaires, policiers et civils, la force regroupe le Nigeria et ses voisins, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin. Les cinq pays se sont entendus au début de cette année pour intensifier leur coopération pour endiguer la menace régionale que constitue le groupe islamiste. La décision d'installer le quartier général de la nouvelle force à N'Djamena a été prise peu après la chute de la ville nigériane de Baga. La capitale tchadienne est par ailleurs le centre de commandement de l'opération anti-djihadiste Barkhane menée par la France au Sahel.
Les États-Unis aussi sont déterminés à aider le Nigeria dans sa lutte contre Boko Haram. Selon les analystes, l'investiture du président Buhari offre aux deux pays une chance de repartir sur de nouvelles bases après des relations plutôt tendues sous son prédécesseur Goodluck Jonathan. Idrissa Sedoudia nous en dit plus.
Dans une vidéo publiée en ligne cette semaine, on a vu des combattants de Boko Haram arborant apparemment le logo de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest. Rien que des mensonges, affirme ce militant qui dément que les pays combattant son groupe aient eu de gros succès dans leur tentative de neutraliser Boko Haram. Cette vidéo a été publiée quelques jours seulement après l'investiture du président Muhammadu Buhari qui s'est juré de faire de la lutte contre le groupe islamiste nigérian sa priorité des priorités. Et l'ancien général a discuté de cette question avec le secrétaire d'État américain John Kerry qui était présent à sa prestation de serment. Pour J. Peter Pham de l'Atlantic Council, il est important que Washington ne permette pas le pourrissement de la situation qui prévalait sous le précédent régime nigérian. Je m'attends à ce que les États-Unis agissent rapidement, envoient des conseillers pour aider le Nigeria, par exemple dans les domaines du renseignement et de la logistique. Le politologue américain rappelle que le Nigeria n'est pas un pays pauvre malgré ses problèmes économiques actuels. Il ne veut pas de charité, mais aimerait avoir la possibilité d'acheter lui-même assez d'équipements et autres pour relever ses défis. Pour sa part, l'analyste Mohamed Rahim s'est exprimé sur la question au programme Africa 54 de la VOA. Monsieur Rahim insiste sur l'assistance technique et explique que les États-Unis et les autres puissances mondiales devraient se concentrer sur l'aide aux communautés frappées de plein fouet par les attaques et enlèvements de Boko Haram. Au département d'État américain, un haut responsable a déclaré lors d'un briefing que les États-Unis espèrent faire plus pour aider le Nigeria à combattre Boko Haram, y compris l'entraînement d'un bataillon cette année.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'économie au Mali maintenant. La Banque islamique pour le développement a accordé à Bamako un prêt d'1 milliard de francs CFA. Objectif, permettre le stockage d'une importante quantité de riz pour faire face à la période de soudure et offrir aux producteurs la possibilité d'obtenir un prix rémunérateur. L'entreposage du riz en question est confié à l'Office des produits agricoles du Mali, OPAM de Bamako. Le reportage de notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
C'est sur la base des textes régissant les relations entre le Mali et la Banque islamique pour le développement BID que plus d'1 milliard de francs CFA a été accordé au Mali sous forme de prêt. En plus, il a fallu un accord de non-objection des marchés publics pour que l'OPAM exécute ce travail. Salif Diarra, président directeur général de l'OPAM.
L'accord prévoit que des négociations se fassent entre l'OPAM et les fournisseurs. Il y a des dispositions concernant les taxes que les opérateurs normalement devraient payer et qui se trouvent être exonérés de toutes ces taxes-là. Donc nous avons traité cette matière dans le cadre strictement de cet accord. Mais nous sommes allés plus loin en écrivant à la DGMP un avis de non-objection par rapport à la gestion de ce projet dans le cadre de l'accord.
L'OPAM veut surtout stocker une quantité importante de riz afin de faire face à la période de soudure.
C'est pour permettre d'abord de donner un prix rémunérateur aux producteurs, parce que quand vous prenez les données de l'OMA pour la période à laquelle on a commencé les achats, les prix étaient en train de plonger. Mais après signature contrat, les prix ont commencé à monter. Ça, c'était un objectif recherché. L'autre objectif, c'est que l'OPAM est un agent de stockage. Donc, l'OPAM achète. En achetant, nous donnons un prix rémunérateur aux producteurs et nous avons l'obligation de vendre ce riz à une période où le prix serait en mouvement ascendant.
En plus de la période de soudure qui est difficile à gérer, il s'agit de contrecarrer la mévente du riz.
Les producteurs avaient quelques problèmes pour écouler leur production et ils ont fait des interventions au niveau des plus hautes autorités qui ont vu la nécessité de leur apporter un appui. Le ministre commissaire lui-même a pu obtenir de la BID le financement d'un certain nombre de projets de résilience.
À coup sûr, les prêts accordés au Mali par la BID doivent mettre un terme à la sortie abusive des riz de notre pays, tout en empêchant les prix borchants pour le bonheur des paysans. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En RCA, les examens du brevet des collèges fortement perturbés hier à Bangui pour les accrochages entre Antibalaka et éléments de la MINUSCA, la force onusienne. Les explications de l'inspecteur d'académie Josias Renaba au micro de Félix Yepassi Zimbrou.
Il y a eu affrontement entre les Antibalaka, d'après ce que nous avons entendu, avec des éléments de la MINUSCA, je crois burundaise. Et bon, comme les tirs étaient nourris, les enfants ont eu non pas des blessures par balle, mais ils ont été sous le choc. Donc beaucoup sont évanouis, d'autres ont eu des convulsions. On les a tous amenés à l'hôpital communautaire d'abord, et certains ont été amenés à l'hôpital général, précisément là où il y a le médecin sans frontières. Donc ça faisait à peu près 75 élèves au niveau de l'hôpital communautaire et 9 au niveau de l'hôpital général. Donc, le cabinet que j'ai informé, tout comme le ministre, se sont rendus sur place pour assister les élèves.
Josias Renaba, inspecteur d'académie à Bangui. Reprise ce jeudi à Vienne, en Autriche, des négociations sur le programme nucléaire iranien. Le département d'État américain souligne que l'objectif reste de parvenir au plus tard le 30 juin à un accord définitif limitant les ambitions nucléaires de l'Iran. Timothée Donangmaï.
Les négociateurs du groupe 5 plus 1, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, entameront aujourd'hui des réunions avec la délégation iranienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a indiqué hier la porte-parole du département d'État, Mary Haf, que cite l'AFP. Absent à ces négociations suite à son grave accident de vélo dimanche dans les Alpes françaises, le secrétaire d'État américain, John Kerry, compte être présent à Vienne pour la conclusion de ces négociations. L'Iran et les puissances mondiales ont conclu un accord de principe le 2 avril à Lausanne en Suisse et s'attelleront à Vienne, et cela jusqu'au 30 juin, à l'élaboration du texte définitif.
Scandale de la FIFA, l'inculpation d'au moins 14 responsables de la FIFA et d'entreprises alliées, notamment pour corruption, et surtout la démission prochaine du président de l'organisation, Sepp Blatter, continue de susciter des réactions dans le monde, notamment ici même à Washington, chez Ruben Dorsil.
Prenons le cas de la Maison-Blanche, qui a salué la démission en disant qu'une nouvelle direction serait l'occasion de partir sur de nouvelles bases au sein de l'instance dirigeante du football mondial. L'AFP cite le porte-parole du président Barack Obama, qui a déclaré que le changement à venir bientôt à la FIFA pourrait être l'occasion pour l'organisation d'essayer d'améliorer son image et de s'assurer que ses actes soient en cohérence avec sa mission.
Et pour terminer, une explosion dans une station d'essence à Accra, au Ghana, aujourd'hui, a fait au moins 73 morts et de nombreux blessés. Le président John Mahama s'est rendu sur les lieux du désastre et a qualifié les pertes en vie humaine de catastrophiques. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.